La question de Nathanel.
Oui. Donc, on dit que la vie est un cadeau, qu'on est là pour faire un tikkun, mais finalement...
Tikkun, je traduis réparation.
Mais finalement, on a plus tendance à faire encore des avérotes et des avérotes, et ça s'accumule, et on fait qu'empirer les choses plutôt que de faire notre tikkun.
Donc, je dois un peu modifier et reprendre ta question, après on va y répondre. Effectivement, la vie est un cadeau. Pourquoi un cadeau? Parce que, de son inné d'ailleurs, personne ne veut mourir. Pourquoi? C'est marqué « Tov yom hamavet yom hivaldo ». Mieux le jour de sa mort que le jour de la naissance. On doit être content de partir au Lamaba. Alors c'est mieux dans la mesure où on a fini de travailler et on va recevoir, on va s'unir à la divinité pour un kiff infini, incessant, progressif, etc. Donc, dans ce cas, on devrait être content de partir. En fait, on a raison de ne pas être content de partir. On voit par exemple que le premier homme aurait dû vivre éternellement et il a été puni, d'accord, que non, il mourrait. Donc on voit que la mort en soi, c'est pas quelque chose de tellement positif. La raison est très simple. Ce grand cadeau est que tout simplement, quand tu vis, tu es. Tu es, dans la mesure où tu as un libre arbitre. Quelqu'un n'a pas libre arbitre, il agit que parce que il est programmé pour agir ainsi, donc il n'est pas. Et on a une soif d'être. La mort, on ne va pas cesser d'être, mais là, on reçoit le feedback de ce qu'on a fait, d'accord, le résultat. On ne peut plus agir, on ne peut plus progresser. C'est marqué que quelqu'un, quand il est mort, il est chofshim la mitzvot, il est libre des mitzvot, fini. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est bien parce que tu n'as plus maintenant l'effort à faire, tu es dans le résultat, mais tu es mort. Ça veut dire que tu es très bien où tu es, mais tu ne peux plus avancer. Tu avances que sur l'appui de ce que tu as fait. C'est pour cela qu'en parenthèse, très souvent, il y a des grands neshamot, des grands tzadikim, qui sont restés 1, 2, 3, 4, 5 siècles, 1000 ans, 2000 ans des fois, dans l'Amaba. Puis, on monte dans la proximité de la divinité. Au bout d'un moment, on est propulsé par les mitzvot qu'on a fait, mais elles n'ont, au bout d'un moment, il ne reste plus que les mitzvot de très très grande valeur, qui ont été faites vraiment dans une pureté, dans une sainteté, dans un désintéressement total. Il n'y a plus beaucoup. Alors l'âme demande à revenir sur Terre pour faire encore un peu. D'où la notion de réincarnation. Alors c'est vraiment un cadeau, comme tu as dit. Maintenant, c'est pas, comme tu dis, un tikkun. Tikkun, réparation, c'est un peu... ça s'entend comme ça, comme une connotation de malédiction. Il y a une faute, et on doit venir maintenant réparer, et pourquoi je dois réparer? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait. C'est pas... Alors, il y a aussi, il y a la notion de réincarnation qui existe, qui est essentiellement juive, dans le Zohar, il y a 2000 ans, on en parle dans Parashat Mishpatim, là-bas, c'est la source de toute la notion de réincarnation. La Kabbalah en parle énormément. Il y a tout un portail. Il y a 8 portails qui écrit Rabbi Noiri. Le 8e, un des huit s'appelle Shara Gilgulim, le portail des Gilgulim. Donc c'est toute la science de la métempsychose de cette notion de réincarnation. Qui vient, quelle partie vient, pourquoi, quand, comment. C'est très compliqué. Et donc il y a aussi cette donne que des fois quelqu'un qui a pas suffisamment fait dans une réincarnation passée, ou pire, fait beaucoup de mal, donc il vient réparer. Mais c'est pas forcément qu'on est tous ici en train de réparer. En tout cas, à la base, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que notre génération, il n'y a plus de nouvelles âmes. Nous sommes tous venus réparer. Ou parfaire, on va dire. Mais à l'époque, il y avait encore de nouvelles âmes qui venaient. Une nouvelle âme ne vient pas réparer. Elle vient faire. L'âme, c'est un potentiel de réalisation qui demande à se réaliser. Chaque potentiel, c'est une réalisation en potentiel. D'accord? Donc, étant potentiel, elle veut se réaliser. Et Dieu a créé, dans un cours qui s'appelle Les Secrets de Bereshit, je l'explique cela de long en large, c'est un peu trop profond et trop long maintenant à le faire, mais Dieu a créé dans l'humanité, dans l'univers, dans la réalité, que le potentiel qui est infini, il a un besoin, il a une envie, il a un désir de vouloir se réaliser. un potentiel tend à se réaliser. Quelqu'un qui a une idée, qui a, il sent, il veut le faire, il veut, on veut être, on veut être. Quelqu'un qui n'a plus aucun but sur Terre, il est mort. Il est, c'est la dépression, c'est la fin. Il doit avoir un petit but. Se lever le matin pour arroser son géranium. C'est un but. Faire un tour avec son petit chien, d'accord. C'est des buts petits, mais il faut un but. S'il n'y a plus de but, il n'y a plus de vie. Parce que Dieu a mis dans la création, dans l'univers, qu'on a un potentiel, il veut se réaliser. Ce qui est anormal en soi, parce que le potentiel est toujours infini, alors que la réalisation est toujours dans le fini. Mais ça fait partie du job. Donc, à la base, on ne vient pas réparer, on vient réaliser. Et c'est vrai qu'on réalise dans le fini, mais les choses qu'on réalise maintenant dans le fini ont un impact infini, c'est-à-dire les mitzvot. Quand on réalise dans les mitzvot, on crée des réalités qui sont infinies. Maintenant, tu me dis, vu que ce monde-là, étant un monde de libre arbitre, ça implique qu'il y ait du mal et du bien, j'ai demandé de voir la vie et la mort, le mal et le bien, choisis la vie, donc il y a aussi du mal et il y a aussi de la mort. Donc, nous étions proche de Dieu, à l'état d'âme, dans le monde de perfection. On vient dans ce monde qui est un monde d'imperfection, donc forcément on va faire des péchés, et c'est vrai, donc on se retrouve pénalisé. Alors c'est faux. D'abord, quand on est, avant de venir sur Terre, on est à l'état de potentiel non réalisé. Donc on n'est pas bien. T'es pas réalisé, t'es rien. T'as qu'un potentiel. C'est terrible. Donc tu veux te réaliser. Donc cadeau, tu viens ici te réaliser. Maintenant, le problème est que tu réalises pas totalement. Une partie oui, une partie non. La partie qui est non réalisée, ou pire, tu la réalises en mal. Tu fais des avéros, tu fais des péchés, qu'est-ce qui se passe avec elle? Alors là, c'est une notion de base qu'il faut comprendre. C'est que les choses qu'on peut réaliser en bien, elles ont une portée éternelle. Je réalise une mitzvah, c'est éternel. J'ai créé maintenant j'étais uni à Dieu dans la réalisation de son désir. Donc je suis maintenant la main de Dieu. Je suis la main de Dieu. La Gemara de Babatra, page 75a, page 75b, dit Amar Biochanan, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. On peut appeler quelqu'un au nom de Dieu? Oui. Parce que quand un tzadik réalise la volonté de Dieu, il fait un avec Dieu. Comme quand ma main passe de la main droite à la main gauche un verre d'eau, d'accord? Tu peux dire, ma main c'est pas moi. Moi c'est moi. Moi c'est une entité spirituelle. Ma main c'est un morceau de steak. Parce que moi, je ne peux pas dire, maintenant, tout coup, ma main a donné une tarte à quelqu'un. Excuse-moi, je lui dis, je sais pas ce qu'il arrive, ma main, tiens, ça lui reprend sans cesse. Reste tranquille, d'accord? Ma main, c'est pas un être intrinsèque. Elle est unie à moi. Moi, c'est ma volonté, en tout cas. Mon moi s'exprime par ma volonté, qui passe en pensée, et la pensée, c'est le cerveau qui va ordonner la main d'agir. Donc, on ne peut pas dire, maintenant, votre main m'a donné une gifle. Vous m'avez donné une gifle. Vous, c'est moi, c'est un truc, un bidule machin, un spirituel. Mais c'est moi. Ma main et moi font un. De même, âme Israël fait un avec Dieu. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est, comme le bidule machin, mon âme, je ne sais pas ce que c'est. Lorsque Dieu s'exprime en volonté, on ne sait pas qui il est, mais sa volonté s'est exprimée en une pensée. La pensée, c'est la Torah. C'est le cerveau. C'est donc déjà les neurones, la pensée, c'est déjà quelque chose d'intelligent et d'intelligible. Et lorsque nous allons réaliser la volonté de Dieu exprimée de façon intelligible dans la Torah, on devient la main de Dieu. Et on fait un avec lui. C'est le secret, c'est le Chazal, que Raïta, la Torah, Kutcha Berichu, le Saint-Béni soit-il, et Israël font un. On est un. Donc, lorsqu'on va être dans cette mesure un avec Dieu, on réalise dans une réalité éternelle. Infinie, absolue. C'est être. Le plus grand être qui puisse être, vraiment, c'est un grand cadeau, tu vois. Soit Dieu. Un point tel que la Torah dit, c'est marqué Etem Kidoshim, qui kadosh ani Hashem. Vous me serez consacré car je suis sacré moi-même Dieu. Chazal disent, vous êtes consacré, mais sache, au niveau de la sacralité, au niveau de la sainteté, tu ne peux pas être aussi saint et aussi sacré que moi. Qui kadosh ani Hashem, car moi-même je suis saint. Ma sainteté est plus grande que la tienne. Il fallait que la Torah précise, sache, Dieu est quand même plus saint que toi. Parce qu'on aurait pu croire qu'on peut arriver à des degrés de divinité, tu m'entends bien, d'accord, être Dieu, un type qui a dit ça il y a 2000 ans, il a très mal tourné, d'accord, c'est dangereux de dire un truc pareil. On peut être Dieu, c'est-à-dire quoi? Comme ma main et moi. Alors il y a moi, mon moi, il y a ma main, c'est pas la même, c'est, ne crois pas que je me trouve là-dedans. D'accord ? Ça fait partie de moi. Partie petite. Donc, il y a Israël et il y a Dieu. Mais on peut arriver à une réalité divine tellement grande qu'il est nécessaire de dire, sache, tu n'es pas quand même comme le Dieu. Qu'une partie de lui. Bon, ça veut dire que c'est quand même extraordinaire comme cadeau. Ça, c'est le côté du bien. Le côté du mal. Le mal, qu'est-ce que c'est ? Pour la énième fois, j'ai souvent expliqué ici. Le mal, c'est la réalité du mensonge. Or, ces deux mots, réalité et mensonge, sont deux mots qui sont antinomiques. Réalité, c'est une chose qui a une réalité. Mensonge, c'est une chose qui n'a pas de réalité. Je dis, c'est une poule, c'est un mensonge, parce que dans la réalité, c'est pas une poule, c'est un ver. D'accord ? Je suis Rothschild, c'est un mensonge, parce que dans la réalité, je suis pas Rothschild. Donc, comment tu dis une réalité de mensonge ? Ben, c'est ça, le mal. Le mal, c'est qu'on donne une réalité, une chose qui n'a pas de réalité, en fait. L'imagination. Le mensonge. Prends aujourd'hui l'image qu'utilise très souvent aujourd'hui le mal, c'est l'image de la femme. Je dis pas la femme, je dis bien l'image de la femme. D'accord, aujourd'hui on vend tout n'importe quoi avec ça. La Terre tourne avec ça, 90% de l'Internet tourne avec ça, avec l'image de la femme. Bah, entre la femme et l'image, et par extension l'imagination de la femme, il y a un milliard d'années-lumière. La femme, somme toute, prend une photo médicale d'une femme nue, sans voir la tête. Bon. Mais prend l'image de la femme avec l'imagination, avec le suggestif, avec le tatati, avec le tatata, on montre pas, on suggère. Je m'excuse de parler de choses aussi crues ici dans une yeshiva, d'accord ? Le bas de la cuisse d'une femme. D'accord ? Si tu prends maintenant, tu prends une photo d'une bas de la cuisse d'une femme, clac ! Bon, ça va, c'est pas trop suggestif. Maintenant, tu prends une robe, tu vas juste une petite échancrure, on voit qu'un petit morceau de la cuisse de la femme. Ben, c'est à peu près 10 000 fois plus suggestif. Pourquoi ? Tu es d'accord avec moi ? Pourquoi ? Parce que la réalité est la réalité. Et le mensonge, il est dans l'imagination, dans ce qui n'existe pas. Parce que soulève la robe, t'as un morceau de cuisse. Bon, c'est pas extraordinaire. Je parle pas d'une belle cuisse, une cuisse moche. Parce que tu m'as dit, t'as la patte, une cuisse moche. Attends, quand t'as l'échancrure, eh ben, t'imagines. Trim, trim, trim. Ça te rend fou. Mais c'est quoi tout ce trip, d'accord ? C'est de la non-réalité. Parlons d'autre chose. Les nerfs. La colère. On peut dire toujours, quand quelqu'un s'est mis en colère, à la fin il regrette. Quand quelqu'un s'est mis en colère, à la fin il regrette. Pourquoi il regrette ? Parce que entre la réalité et le feu d'artifice volcanique auquel on a eu droit, d'accord ? C'était pas proportionnel. Mais pourquoi il s'est énervé ? L'imagination commence à travailler. Comment on ose me faire ça, à moi, alors que j'ai fait ça ? Et tout de suite, imagination. C'est pas la réalité, c'est le mensonge. L'amour de l'argent. J'ai rencontré des gens riches dans ma vie. Ils ont suffisamment d'argent pour 10 générations. S'ils font 10 enfants par génération, sur 10 générations, ils ont assez d'argent pour que tous leurs enfants soient tous millionnaires. Millionnaires sur 10 générations. Il ne peut pas s'arrêter de travailler. Il a un kiff extraordinaire à gagner encore et encore et encore et encore. Il y en a un peu plus et à quoi ça sert ? Combien de gens ont gagné le loto ? Et leur vie s'est arrêtée à ce moment, leur bonheur s'est arrêté à ce moment-là. Donc on imagine des choses. Et d'habitude quand on imagine, vu que ce n'est que l'imagination, ça veut dire du flop, et la réalité, ce n'est pas adapté à la réalité, qui est tout à fait autre chose, ça s'appelle le mal, ça t'amène à rien. Rien. C'est ça le mensonge. Le désir de pouvoir. combien de millions, de milliards de personnes sont mortes dans l'histoire, dirigées par des fous avides de pouvoir? C'est simplement une mida, un caractère, ce type-là, il a un problème, ou de trait de caractère, si gentil, ou psychiatrique, d'accord, si je suis un peu plus méchant, d'accord, il est avide de pouvoir. Pouvoir pour le pouvoir. C'est une maladie. T'es pas... De toute façon, plus t'en as, plus t'en veux. Donc, soif, t'auras toujours soif. Dans le monde du mensonge, plus t'en as, plus t'en veux. Ohev kesef, lois ba kesef, dit Chazal. Salomon le roi, il dit. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Chazal dit, t'as un organe chez l'homme, un petit organe. Celui qui le rassasie, il est affamé. Celui qui l'affame, il est rassasié. L'appétit vient en mangeant, disent nos ancêtres les Gaulois. D'accord? C'est pas faux. Tu investis dans le mensonge, t'en veux plus. T'es jamais satisfait parce que c'est du vide, c'est du flop. L'exemple type dont on parle dans la Bible, c'est Haman. Haman. Ça c'est le amour le plus grand qu'il y a. C'est encore plus que les femmes, plus que l'argent. Ça marche ensemble, mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est le kavod, l'honneur. L'honneur. L'humanité recherche les honneurs. Quelqu'un a besoin, parce qu'il a manqué de tout mi, on dit en hébreu, tout matelev, d'attention quand on était petit, alors il nous fait maintenant des guerres dans le monde entier, d'accord? Monsieur a besoin qu'on reconnaisse qu'il est quelqu'un. Haman, qui est le second de l'empereur de Perse, l'homme le plus puissant du monde. Et l'empereur, il est dans ses festins, etc. Donc le type qui dirige tout, c'est Haman, le grand vizir. Quand il sort, tout le monde se porte prosterne devant lui. Il y en a un qui ne prosterne pas, Mordechai. Il rentre chez lui. Il réunit toute sa famille, tous ses sages. Il leur dit, le roi m'a invité en invitation personnelle, lui et sa femme, demain, un festin chez eux à la maison. Je suis maître de l'Empire. Tout cela ne vaut rien à mes yeux, parce que je vois Mordechai, le juif, qui ne se prosterne pas devant moi. C'est psychiatriquement soignable ce truc-là, d'accord? Mais croyez que c'est pas le seul du monde à être comme ça. Tous les gens qui sont avides de kavod, quand un ne fait pas du kavod, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il en est malade. Donc tout ça, qu'est-ce que j'expliquais maintenant pendant 5 minutes? Ça s'appelle la réalité du mensonge. Ça veut dire on donne la réalité à une chose qui n'en a pas. C'est de l'imagination. Et c'est la source de tout le mal dans le monde. Alors Moshe Shapira, un des grands rabbins ici en Israël dans la pensée juive, il a dit, c'est marqué dans la Amida, il y a la bracha, la minim la mshim, c'est la 19e bracha qu'on a rajoutée plus tard, Shmuel Katan, c'est lui qui l'a institué. La minim la mshim atitikva. La minim, aux incroyants. La mshim, aux délateurs. Atitikva, qui n'est pas d'espoir. Tous tes ennemis, tous ceux qui te haïssent, meira ikaret, tout rapidement, ils disparaissent. C'est marqué dans le Sidour. Quand on dit, il faut penser à une force maléfique, l'ange du mal, il ne faut pas dire son nom, c'est sa mère même, Aleph et puis Lamed. Il faut penser à un autre, le féminin du négatif, Lamed et puis Yud et puis Lamed et puis Yud et puis Taf. Les deux forces du mal, en masculin et en féminin. Faut pas prononcer ces mots, faut les penser. Quand on pense au mal. Alors, c'est quoi? De qui on parle maintenant? Du mal. Il y en a qui vont dire, c'est l'Iran. Il y en a qui vont dire, c'est le RF Rav. Il y en a qui vont dire, c'est Hitler. Il y en a qui vont dire, qu'est-ce que j'en sais? Le Rav, il a dit, c'est l'imagination. La source du mal, c'est l'imagination. C'est le serpent originel qui vient et qui fait croire ah, Ève, tiens, tu as mangé de ce fruit, tu vas être maintenant, regardez, il est beau, il est bon, tu vas être quelqu'un de grand. Du cinéma, le flop, il lui a donné l'impression que le flop, il est réel. C'est la source de tout le mal dans le monde. Vu que le mal n'est qu'un flop, il n'a pas d'éternité. Il y a une promesse dans la Bible. Va avir et ruach hatum'a mina aretz. Viendra un jour où Dieu va liquider l'esprit d'impureté de la terre. C'est très bientôt, la quête de Dieu. Le grand feu d'artifice est terminé. Mais ça veut dire qu'il y a une promesse que ça passe. Au niveau des véhicules du bien et du mal, véhicule du bien, c'est un Israël, qui est appelé Réchit. Bereshit. Pour Réchit, pour Israël, Dieu a créé le ciel et la terre. T'as un autre peuple qui appelle aussi Réchit, Amalek. Réchit Goïm Amalek. Premier des peuples, Amalek. C'est-à-dire qu'à la base, tu as déjà, quand le monde est créé, tu as deux entités, une véhicule du bien, une véhicule du mal. Israël et Amalek. Donc c'est le monde qui fonctionne comme ça. On pourrait croire que de même que Israël est éternel, étant véhicule de la divinité, alors il y a aussi le monde éternel du mal. Alors le verset dit, Réchit Goïm Amalek, le premier des peuples est Amalek, Vaharito, et à sa fin, Adé Oved, il disparaîtra pour l'éternité. À la fin, il disparaîtra pour l'éternité. Donc on a une promesse que disparaît Amalek. Et tant que Amalek existe, il n'y aura pas la divinité entière, le dévoilement de la divinité entière sur terre. C'est marqué que le trône de Dieu n'est pas complet. C'est-à-dire que Dieu ne demeure pas dans le monde comme il devrait demeurer de façon éclatante, comme je dis très bientôt. Donc, même si quelqu'un fait le mal, il fait du mal, beaucoup plus de mal que de bien. Le peu de bien qu'il a fait est éternel. Le mal aussi grand qu'il a fait, un beau jour disparaît. Ça veut dire, il payera des factures, il les réparera difficilement dans la mazé, dans la maba, t'as beaucoup de programmes de réparation, etc. Mais à la fin, tout le monde aura part à la divinité. Parce qu'elle est éternelle et le mal n'est que temporaire, il n'est que le flop. Ça, c'est la première réponse à la question. Donc, même si on vient maintenant, ça valait la peine pour le cadeau de pouvoir être, même un temps soit peu, de vivre dans ce monde avec tout le mal que ça peut amener, que ça amène et toutes les souffrances que ça implique. Parce qu'en fin de compte, grâce à cela, j'ai droit à l'éternité, à la réunion avec Dieu. Bien sûr, mais vous le faire dans le bien. C'est plus agréable. C'est aussi la volonté de Dieu. Et il y a quand même une différence, ou si tu vas droit ou si tu vas tordu, à la fin. T'arriveras. Chacun aura son tikkun. Mais si t'es arrivé par toi-même, t'as plus que si t'es arrivé malgré toi. Première réponse. Deuxième réponse. Une notion plus profonde dans les gilgulim, dans les réincarnations. Quelqu'un qui a fait des péchés doit, pour certains péchés, en fonction de la gravité du péché, en fonction de l'identité d'âme qu'il est, sa racine d'âme, d'où il est, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est là. Ça, pour certains péchés, on doit revenir ici en réincarnation. Pour réparer. Dit Rabbi Chaim Vital, dans justement ce huitième portail, un des huit portails de la mystique juive, dans celui des Paragil Goulim, dans le portail des réincarnations, il dit, à ce moment-là, il y aura un problème. Quelqu'un vient maintenant, tu prends un échantillonnage de la population, tu prends 1000 personnes, qui sont venues sur Terre, et en moyenne, il y avait 50% de bien, 50% de mal. Alors ils reviennent maintenant. On revient au même résultat. En moyenne, tu auras 50% de bien, 50% de mal. Alors ils reviennent, 50% de mal. On n'en finit pas. On va stagner toujours. Que fait Dieu dans sa grande miséricorde? Voyant que justement, le but c'est que ça avance, c'est la question. Alors, à part l'incarnation, il va créer une autre notion qui s'appelle Ibur Neshama. Ibur Neshama, littéralement, être enceinte du Neshama. Alors attention, des gens qui m'ont entendu sur internet sont allés pour finir en hôpital psychiatrique parce qu'ils se croyaient enceinte du Neshama et des trucs pareils. Il ne faut pas, tout ce que je parle de choses qui sont profondes, que prendre très, on en parle comme ça sur le bout des doigts et on sait pas vraiment de quoi, je ne sais même pas très bien de quoi je parle. De quoi s'agit-il en deux mots? Une réincarnation, c'est quand tu nais avec une âme et tu meurs avec la même âme. Un Ibur Neshama, c'est-à-dire que tu reçois en parcours une âme de tzaddik qui vient t'aider. Donc c'est pas que tu es enceinte, c'est que tout à coup t'as la pêche, t'as une envie d'aller faire une mitzvah, comme ça. T'as un souffle de sainteté qui t'habite et hop, tu vas faire une mitzvah. D'habitude, cette âme de tzaddik vient parce qu'elle-même a envie d'être bénéficiaire de cette mitzvah. Elle est dans la Mabah, elle ne veut pas revenir en réincarnation. On lui permet maintenant de faire une mitzvah qui lui manque. Elle va s'associer maintenant avec toi pour la mitzvah. Tout d'un coup, maintenant, tiens, moi je t'aide, allez. Et les deux, on est associés. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'aneshama du tzaddik reçoit et bénéficie de la mitzvah, et toi aussi. Bonne affaire. L'avantage, c'est que quoi? C'est que si la personne qui reçoit le supplément d'âme du tzaddik fait un péché, le tzaddik qui est venu maintenant l'habiter, quelque part, n'est pas associé dans le péché, n'est associé que dans la mitzvah. Quand tu viens une âme vient en réincarnation, ben, c'est elle qui fait tout. Elle fait le bien, elle fait le mal. Et c'est elle qui est responsable de tout. Quand c'est pas une réincarnation, quand c'est un Hibur Neshama, quand c'est une âme qui vient habiter en tant qu'âme enceinte, on va dire, tu tombes enceinte d'une âme, tu viens porteur d'une âme de tzaddik, l'âme de tzaddik n'est associée avec toi que dans les mitzvot et pas dans la verot. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont déjà dans la mama, qui viennent maintenant nous aider à faire des mitzvot, eux peuvent que se parfaire, sans prendre le risque de tomber dans le panneau du mensonge de ce monde-ci. Et comme ça, les âmes arrivent à se parfaire. Comment est-ce qu'on reçoit une âme de tzaddik? Il y a un truc, c'est dans le sommeil qu'on a après le deuxième repas de Shabbat. La daf d'habitude. Et c'est marqué que Rabbi Noari dormait plusieurs heures après la daf de Shabbat. Beaucoup de gens très flemmards utilisent ce Rabbi Noari pour dire, après la daf, on va dormir. Ils ont dormi 12 heures la nuit, après rebelote leur ont encore 3 heures pour bien... Alors, 15 heures quotidiennes du Shabbat, d'accord? Non, Rabbi Noari, s'il dormait plusieurs heures après la daf, ça veut dire que toute la nuit, il était en train d'étudier la Torah. Alors, après la daf, il va dormir 2-3 bonnes heures. Pourquoi il dormait après? Parce que c'est ce moment-là qu'on peut recevoir le Hibur Neshama. Comment part un Hibur Neshama? C'est marqué si quelqu'un... D'abord, si on fait une Avera, alors à ce moment-là, l'âme, elle nous quitte, elle peut ne pas revenir. Et c'est marqué, j'ai vu ça dans Kafarim, c'est marqué que si quelqu'un dort durant la journée, alors l'âme le quitte. Et le Kafarim dit qu'il semblerait que si on dort pour avoir de la force pour étudier la Torah, alors l'âme reste.
En semaine, vous voulez dire?
En semaine, exactement. J'ai répondu? Donc, il y a deux réponses. D'abord, on n'est pas ici pour réparer. D'habitude, on est là pour effectivement faire, c'est un cadeau. Ensuite, la question était... on risque de faire plus de mal que de bien, en tout cas reste à égalité. Deux réponses. D'abord, le mal, il n'est que temporaire, il est voué à disparaître, et on le répare. On le répare comment? Ou par tshuva, ou par souffrance dans ce monde, ou par souffrance dans tous les purgatoires qu'il y a, je ne peux en parler, c'est pas trop intéressant. Vu que ça intéresse, vous pouvez les voir, c'est dans Reshit Chochma. Reshit Chochma, un très grand livre. Le must, peut-être, des livres de Moussard, dur à lire, c'est beaucoup de Zohar. Aujourd'hui, c'est traduit même en hébreu, c'est écrit par le Rav Eliyahu de Vidach, il y a 500 ans environ à Tzfat, et là-bas, tu as des petits traités Gehenam, traités Hebut Akever, traités Kafakela, tous les programmes qu'il y a, voilà, bon, si vous voulez dormir bien cette nuit, voilà, ça c'est, j'aime pas trop en parler, c'est pas trop intéressant. Mieux vaut utiliser les moyens positifs de réparer, qui est la Tshuva, qui est facile, c'est maintenant Elul. On a parlé hier, il suffit de dire à Dieu qu'on a regretté, prendre sur soi, pleurer un peu, et voilà, Berat Hashem, Dieu nous amène beaucoup, beaucoup de lumière et beaucoup d'aide pour faire beaucoup de mitzvot. Donc, première réponse, le mal est temporaire. Deuxième réponse, par le Hibur Neshama, toutes les âmes qui sont déjà dans la Mabah arrivent à parfaire de façon totale leur âme, sans devoir rentrer dans le risque de revenir dans l'Olamazé, et des fois faire pire. Des fois, quelqu'un revient dans l'Olamazé pour réparer une chose, et il en casse 100. C'est pour cela qu'il y a une notion très profonde aussi, que des fois, on voit des gens qui meurent jeunes. Ou on voit des gens qui sont des grands tzadikim, qui tout à coup perdent la vue. Ou perdre la parole, ou devenir chassé shalom amputé. C'est terrible. Ou des gens qui naissent comme ça, d'habitude, ce sont tous des grandes âmes. Et ce que je dis est dur à comprendre parce que nous, on vit dans Olam Hazeh. Mais il faut comprendre maintenant, il faut avoir le regard de Olam Haba, on parle maintenant de l'infini. Olam Hazeh par rapport à l'infini, il n'a aucune valeur. Et tout simplement, ils disent à Dieu, écoute, pourquoi maintenant, moi, je suis revenu toute ma vie de faire la Shonara. J'en viens sur Terre pour réparer. Alors, celui qui meurt jeune, il a réparé un petit truc qu'il devait faire. Bye bye, il part tout de suite. Qu'est-ce qu'il va rester ici? Un autre qui, avant de venir dans ce monde, il lui dit, écoute, mon vieux, il faut revenir. Pourquoi? T'as un problème maintenant, faut réparer l'écoute, les yeux, je sais pas. J'ai dit, mais la bouche. Moi, j'étais parfait. J'ai tout réparé. C'est vrai. Ah, pourquoi tu me remets maintenant dans ce monde-ci où je vais retenir sa bouche? C'est très très dur dans ce monde. Mais il faut que tu reviennes, lui dis-je, sinon t'étais pas parfait. Alors l'âme implore Dieu de revenir dans ce monde muet. Muet, comme ça, pas de problème. C'est-à-dire perdre, c'est un organe qui est mort. Ça veut dire, la vie, c'est libre arbitre. Quelqu'un préfère rester dans l'amaba au niveau de la parole. À l'état de mort, c'est-à-dire quoi? Mort à l'état de parfait. Non, c'est parfait, je ne vais pas venir prendre le risque de gâcher maintenant l'organe de la parole. Idem, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui est amputé, etc. Ou en début de parcours, en milieu de parcours. On nous souhaite tous à rester de bonne santé, grâce à HM, jusqu'à 120 ans, avec tous nos organes en bon état, et faire des missions avec, beaucoup. Des questions, des commentaires sur ce qu'on a dit?
Sur l'âme de Tzadik, on a du Ibo Neshama,
ça? Oui.
Tant qu'on ne fait pas de la Averot, elle reste...
Non, si on fait une Averot, elle part forcément, mais des fois, elle reste un certain temps pour faire la mitzvah. Elle peut venir des fois des années, des dizaines d'années. Des fois, elle vient pour une mitzvah, elle repart. Tout en fonction de nos mérites, de ses mérites. Pardon ?
Ça dit qu'on fait bien.
Pas forcément. Nous, pas forcément.
Il n'est pas si t'as les tshuva, justement ?
Ça se peut. Que très souvent, déjà, les balais tshuva, c'est énorme, la tshuva. Il n'y a pas de plus grand que les balais tshuva.
Un balais tshuva, c'est...
Ça se peut. Il y a des gens des fois très simples qui ont un Ibur Neshama. On raconte l'histoire sur Baba Salé, qu'il était à Paris, chez un membre de sa famille, dans un magasin, tout coup il y a un type qui rentre avec les cheveux longs, un piercing, comme ça. Il le voit depuis le bureau, il appelle. Et il boit avec lui, il discute comme ça. Tout le monde ne comprend pas. Un hippie à l'époque, c'était pas encore les punks, il n'y avait que les hippies. Enfin, qu'est-ce que... Baba Salé dit après, il avait en lui une étincelle de Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes. Une étincelle. Qu'est-ce que fait une étincelle chez un hippie? D'accord? Ah, il y en a aussi, d'accord, comme ça, voilà. Il y avait une étincelle qui est venue pour faire une mitzvah que les hippies voulaient faire aussi. Qu'est-ce que j'en sais? Il y a des choses comme ça qui ont lieu, c'est certain. On m'a dit dernièrement que Baba Meir, il prenait des brachot. Il voyait quelqu'un, il prenait des brachot de ce quelqu'un. Il a dit un jour à sa fille, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas, tu ne sais pas qui a quelle valeur, comment Dieu juge chaque personne. Et ça rentre bien dans le cadre de ce que je dis maintenant, que des fois, il y a des nitsosot, des ibur neshama, un grand sadique avec quelqu'un, et quand ce quelqu'un te bénit, le sadique aussi te bénit avec.
Par rapport à ce que vous disiez avant, quelqu'un qui a une petite chose à réparer simplement dans ce monde, et on ne peut pas arriver dans une famille complètement non religieuse, il peut arriver dans une famille qui est déjà... Sinon, ce sera un trop gros risque que tu le mettes là-dedans, non? Ça veut dire que nous, inversement, si on est pas le tchouva, ça veut dire qu'on a des gros trucs à réparer?
Oui et non. C'est vrai que, encore une fois, la logique des choses, beaucoup de choses nous échappent, on ne connaît pas tous les paramètres. Mais c'est vrai que, d'après la logique de ce qu'on dit, quelqu'un qui a peu à réparer ne va pas naître dans une famille de Rechaim où il a toutes les chances de faire beaucoup de bêtises. C'est vrai. Mais, il est marqué... clairement aussi dans les bouquins de mystiques juives, et j'en ai parlé si souvent, que les grandes Neshamot, qui sont susceptibles de faire beaucoup de bien dans le monde, beaucoup de mitzvot, ne peuvent pas arriver sur Terre. Pourquoi? Parce que le sitracha, le côté négatif, empêche. C'est le côté négatif, il y a du mal, il y a des puissances de mal dans ce monde, et elles ne veulent pas que les grandes Neshamot viennent dans ce monde. Parce que si une grande Neshamot vient dans ce monde, elle va faire beaucoup de bien. Et s'il y a beaucoup de bien, beaucoup de lumière, ça nous qui sommes obscurité, ça nous enquiquine, dit le Sitracha, le côté négatif. Sitracha, c'est en araméen le côté négatif. Alors c'est marqué que Dieu leur joue un rôle, leur joue un tour. Il leur dit, écoute, cet Neshama, bonjour, il faut que toutes les Neshamot sont censées arriver sur Terre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une mission très importante, d'amener les enfants. Parce que tant qu'on n'amène pas, c'est marqué, tant qu'il y aura encore des Neshamot dans le corps, on parle du corps spirituel du premier homme, parce que toutes les âmes, toutes les parties d'âme du premier homme qui sont âmes Israël doivent venir sur Terre, le Mashiach ne peut pas venir. Donc quelqu'un qui ne fait pas d'enfant, il repousse la venue du Mashiach. Donc, il faut bien qu'à la fin, toutes les Neshamot viennent sur Terre. Alors, côté négatif, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, ouais, mais pas maintenant. Viens à l'Eshiva. Ouais, demain. Demain. Ouais, ouais, encore un petit truc à faire. On repousse. D'accord. Tout ce que les serins peuvent shipper, ils shippent. Ah, il dit, il repousse. Alors Dieu lui dit, écoute, je te fais un deal. Cette neshama, elle est énorme, n'est-ce pas? C'est un grand potentiel. Attends, si un grand potentiel fait du mal, ça fait beaucoup de mal. Une petite neshama, c'est une trottinette. Une grande neshama, c'est une Columbia. Une navette spatiale. Une petite trottinette qui va très bien, très droit, elle fait du 20 à l'heure. Elle fait une avéra, elle fait un faux mouvement à la trottinette. Ok, c'est un petit bobo au genou. Une navette spatiale qui va droit, elle fait du 200 000 km à l'heure, je sais pas, quelque chose d'assez rapide. Mais une erreur d'une navette spatiale, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal, d'accord? Ça fait beaucoup plus mal qu'un petit bobo au genou. Donc, un grand potentiel qui va faire du mal, pour le côté négatif, c'est une catastrophe. Pour le côté négatif, c'est très très bien, parce qu'il va créer une catastrophe dans le monde, il va détruire la moitié du monde. Un type qui a un grand pouvoir, qui a une grande neshama, et qui est utilisé en mal, il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc le Tzara entend ça et dit, alors je te propose maintenant de faire naître cette grande neshama dans une famille de gens non pratiquants. Et lui, par la force des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger du porc. T'as une neshama dans le Baba Sali qui mange du porc. Le Tzara, il entend ça quoi? Répète ça. Baba Sali mange du porc. Baba Sali, il dirige la Gay Pride. Baba Sali dirige la Gay Pride. C'est un exemple, Baba Salé, je ne vais pas toucher ce... Une neshama de même type. Baba Salé, je ne sais pas moi, incite les juifs à quitter la Torah. Banco. Allez, un neshama, zoup, elle va naître. Elle va naître. Elle va participer à la Gay Pride, elle va manger du porc, elle va écrire des articles contre la Torah. Puis un beau jour, vu que c'est une grande neshama, elle a... un éclairage divin très grand qui vient. Et très souvent, pas toujours, parce qu'on a un libre arbitre, mais très souvent, plic, elle fait tchouva. L'armée d'anges maléfiques qu'elle a créée en mal sont transformées en bien. Elle est née. Elle est sur terre maintenant, on peut pas l'enlever. Donc elle a commencé à faire beaucoup plus de bien qu'avant. Et c'est marqué que même des fois, elle va faire tchouva à son entourage, qui était vraiment une famille de petites âmes négatives. Mais lui, il est très grand, tellement grand, il arrive à faire tchouva aussi à son entourage. Et c'est marqué dans le bouquin de Bessie que très souvent, les âmes des Baal tchouva proviennent de ce type de neshama. On va pas tous commencer à aller là. On sait pas qui on est. Personne peut-être un tordu, t'as été recalé déjà 30 fois, et là maintenant... par le mérite d'ancêtres, qui ne sont même pas par toi, d'accord. Il y a des ancêtres aussi qui fait beaucoup, d'accord. Toi, tu es un nul. C'est toi aussi. Ou pour la grande échelle que tu as, ce que tu as fait dans ta vie, c'est rien. Tu aurais dû faire beaucoup plus. Tu aurais dû être Baba Salé, tu es tout juste un étudiant à Sierra Yosef. Alors, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas non plus, d'accord. Mais néanmoins, c'est une réponse à ce que tu voulais dire. Ce n'est pas forcément que quelqu'un qui est né dans une famille de gens non religieux, qu'il a un passif très gros, et pas une petite chose à réparer. Des fois, au contraire, ça peut être une grande neshama qui vient ici pour faire avoir une mission spéciale, jouer un tour, etc., comme on est en train de le faire maintenant, au niveau général, d'accord. Il y a un cours dont je recommande la vision, qui s'appelle le RVRA, j'explique ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'État d'Israël, c'est ça. C'est que l'État d'Israël, c'est bizarre. On rêve depuis 2000 ans de retour en terre d'Israël. L'époque messianique, on prie ça, je crois. Il n'y a pas deux lignes dans la Torah dont on n'en parle pas. Ce retour à Jérusalem, la région reconstruite d'Israël, Mekabetz Netre Israël, tous les exilés reviennent. Bon, on serait attendu à ce que, qui soient les promoteurs de ce... On serait attendu à ce qu'ils soient les promoteurs de ce grand mouvement. Les grands rabbinim. Le premier promoteur, oui, c'était le Gaon de Vilna. Et il y a un livre collator qui dit que c'était la neshama du Machar Ben Yosef qui a enclenché le mouvement. Ce mouvement a été récupéré par la force négative, comme c'est marqué dans les livres. Et pour finir, l'État d'Israël est créé par des gens, Herzl, qui a écrit très clairement qu'il souhaite qu'un dimanche ensoleillé, On amène tout le peuple juif à la cathédrale de Saint-Stéphane et on convertit au christianisme. Pourquoi ? Lui, dans sa logique, il voit la terre Dreyfus, il voit que c'est un peuple différent des autres, il faut qu'il ait une terre comme les autres, il soit comme les autres, comme les autres. On va les christianiser, il n'y a plus de problème juif. D'accord ? Ben Gurion et sa clique vont dans le même mouvement, etc. Et on a ici la création d'un État athée, laïque, anti-religieux, qui promeut une gay pride, qui promeut la vente de porc libre, qui nous importe 300 000 Russes non-juifs, on est 1 million de Russes dont au moins un quart sont non-juifs, avec des prostituées, avec des maisons de passe libres, enfin tout ce que tu veux, d'accord ? Quelque chose qui cloche ici. C'est ça notre tour. Réponse. Tu as joué un tour au côté négatif. Toutes les nations qui sont les véhicules du côté négatif, l'OLU, l'Organisation des Loups Unis. On dit, écoutez, vous avez essayé maintenant, ça fait 2 millions que vous voulez maintenant annihiler ce peuple. Chaque génération, quelqu'un se fait pour nous anéantir. 2 millions t'as essayé, t'as amené Hitler, Staline, et ils sont encore toujours là. On va amener le système des juifs eux-mêmes, Ben Gurion et sa clique. Eux, ils vont les rendre goy. On va autoriser une gay pride à Jérusalem. Quoi ? Répète-le-moi-le. C'est pas passé maintenant, c'est à Jérusalem, la veille de Rosh Hashanah, la ville sainte, gay pride. En Israël, par des juifs. Banco. Le côté négatif accepte, l'OLU accepte de donner la terre d'Israël aux juifs. Mais quels juifs ? Ceux-là ! Pas les religieux, aucun religieux, aucun religieux. Il y a quelques comme ça, 200 personnes orthodoxes au début de la création de l'État. Et tout à coup, après 60 ans, qu'est-ce qui se passe ? Ils font choua. Mais par centaines de milliers. Avi Dichter, le patron des Shabak, du RG israélien, avant il était, a écrit l'ennemi numéro 1 de l'État d'Israël, les orthodoxes. Parce que dans une projection sur 20-30 ans, ils ont le pays à eux. C'est un type intelligent, il voit, il fait les calculs, tous les chiffres, ils ont raison. Et les Baïchoua, ils n'arrêtent pas. Les meilleurs, les tops, tous les meilleurs, les pires dirigeants de chez eux, ils reviennent. Les pilotes d'avion, ils ont fait tchouva. Les artistes, ils font tchouva. Les acteurs, ils font tchouva. Qui fait pas tchouva ? Que les nuls, d'accord, aujourd'hui. Donc, ces nuls qui restent, et ben, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. On avait ici un État laïque, ça devient un État religieux, c'est insupportable. On a joué un tour au côté négatif. Ce qu'on a fait, le Baal Tshuva, au niveau particulier, on l'a fait au niveau général du peuple juif, en espérant que bientôt on va vivre l'apothéose. Par la Tshuva, ma chair se dévoile, la route de Dieu, Bézat Hachem, et tout le monde fera Tshuva, même les petits nuls. Amen, Kenirat Sor.